Merci Maïlis et à demain pour un nouveau numéro d'Entendez-vous l'écho.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Compagnie des auteurs vous propose une semaine spéciale placée sous le signe des livres parus en cette année 2017 qui s'achève bientôt et dont nous n'avons pas eu la possibilité de parler. Des livres qui nous semblent des parutions intéressantes et qui en plus peuvent vous donner des idées en cette période de cadeaux de Noël dont on connaît les joies et les angoisses. Une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Chloé Kaczmarek et David Jakubowiez. Avec aujourd'hui à la console, Jaison Taouk. Lundi, nous parlions avec Philippe Javorski de la sortie de la Pléiade Philippe Ross chez Gallimard. Demain, nous serons en compagnie de Jean-Luc Barré, puis de Cécile Gilbert pour évoquer les écrivains Mathieu Gallet et Bret Easton Ellis. Tous deux ont été l'objet de la publication de leurs œuvres complètes chez Bouquin Lafond. Enfin, jeudi, nous vous proposerons de revenir sur les reparutions des œuvres de Carson McCullers avec différentes préfaces. Toutes neuves, elles sont parues aux éditions Stock. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, parmi nos idées de livres à mettre sous le sapin, pourquoi pas un recueil de portraits littéraires qui serait aussi une réflexion sur l'histoire du portrait en général. En septembre dernier est en effet parue une anthologie, toujours chez Bouquin Lafond, sous le titre « Portrait craché, un trésor littéraire de Montaigne à Houellebecq ». Et je reçois aujourd'hui celui qui en est l'artisan, le romancier et essayiste Claude Arnaud, auteur notamment de « Qui dit je en nous ?», qui avait obtenu le prix Femina de l'essai en 2006. Il est également l'auteur des biographies de Chamfort et de Cocteau, ainsi que de l'essai « Proust contre Cocteau ». Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Est-ce que vous vous êtes senti quand même engagé par quelque façon par Claudine? C'était quand même une part de vos souvenirs, une part de vous-même.
Oui. Une part. Mon Dieu, c'est plutôt un paysage qu'un récit genre mémoire. Je n'aime là-dedans, je n'aime plus de tout cela, je n'aime plus que certains paysages. Parce que les paysages, eux, du moins, ils étaient authentiques.
J'aimerais justement que vous nous preniez par la main et que vous nous emmeniez dans ce paysage de Claudine, à sa façon. Vous vous souvenez ? Je m'appelle Claudine, je suis née à Montigny en 1884 et probablement je n'y mourrai pas.
Qu'est-ce qui est vrai de ça ? Vos préambules de mensonges, ma foi. Je ne m'appelle pas Claudine, je ne suis pas née à Montigny, je ne suis pas née en 1884. Enfin, vous voyez.
En tout cas, est-ce que vous
pouvez... C'était presque déjà faire œuvre de romancier que de mentir, c'est bien.
Si Denis Gabriel Colette répondant un peu vertement à André Parinaud, qui insinuait qu'avec Claudine, elle avait fait un portrait d'elle-même. Bonjour Claude Arnaud,
bonjour.
Merci de passer nous voir aujourd'hui. J'ai voulu ouvrir cette émission avec cette archive de Colette parce que c'est elle qu'on voit alanguie sur une tête de lion sur la couverture de votre livre. Pourquoi cette illustration-là ?
Parce qu'il y a à la fois un être humain, une femme qui est aussi par ailleurs un auteur qui elle-même est citée dans cette anthologie parce qu'elle a fait des portraits remarquables, Colette. Mais il y a aussi cette tête de lion qui est avant elle et qui est un des thèmes qui parcourt le livre. C'est le rapport de l'humanité et de l'animalité, ce qu'il y a d'animal en nous, ce qu'il y a d'humain dans l'animal. Puisque les portraits que j'ai choisis, les portraits écrits que j'ai choisis, que je commande, que j'introduis, que j'analyse, sont non seulement des portraits d'individus, mais aussi parfois des portraits de groupes, et je vais jusqu'au portrait d'animaux, qui me semble quelque chose d'essentiel dans le ressort du genre, puisqu'évidemment nous sommes des animaux simplement qui ont le pouvoir d'écrire, ce qui n'est pas le cas des autres espèces.
Donc il y a une mise en miroir de Colette et du lion, selon vous?
Oui, il y a une mise en miroir de Colette et du lion. Colette avait quelque chose de aussi une force de prédation dans ses portraits, pas seulement dans ses portraits, dans ses livres en général. Elle a un œil d'une acuité remarquable, et donc elle a cette capacité à saisir les êtres qu'elle décrit. Qui est frappante, c'est vraiment une excellente portraitiste de ce point de vue-là. Ça va vite, c'est cru, c'est physique, c'est concret. Tout le système de Colette est un système très, presque panthéiste, païen, de saisie, des odeurs, des couleurs, de l'animalité, justement, de l'animalité primitive. Et c'est peut-être ça qui me touche d'abord dans le genre, c'est la capacité de certains écrivains à saisir un être qui arrive dans notre champ visuel. Et comme un animal qui surgit, d'un bois, d'un bosquet, d'un sous-bois, et qui se plante devant vous, soit pour vous tuer, soit pour vous regarder, soit pour se faire caresser, on ne sait jamais.
Il y a des portraits de Proust, de Colette notamment.
Oui, il y a des portraits de Proust, il y a un autoportrait de Proust extraordinaire que Proust écrit à 17 ans. À son ami Robert Dreyfus, dans une lettre à son ami Robert Dreyfus, où il se décrit déjà avec une lucidité affolante et tout le système extrêmement complexe qu'il arrive à mettre en place dans sa relation avec les autres, système de séduction, même de provocation sexuelle et en même temps de dénégation, de fuite et de complications, de reproches et... C'est un portrait inouï de lucidité. Inouï.
Ça, c'est l'autoportrait. Mais
ça, c'est un autoportrait.
Mais Proust est aussi portraituré par Colette. En revanche, je ne crois pas qu'il y ait de portrait de Colette dans votre anthologie par d'autres.
Non, il n'y a pas de portrait de Colette par d'autres, parce que c'est vrai que le principe de l'anthologie, très vite, c'est devenu un peu plus qu'un recueil de bons portraits littéraires, puisque je suis là... présent, j'accompagne le lecteur, j'introduis les personnages, je dis un peu le contexte, rapidement, mais quand même suffisamment.
Vous faites historien, quand même.
Voilà, je fais un peu, je suis un peu le monsieur loyal, quoi. Je dis qui est qui, où on est, quand, qui... Parfois, quand les noms sont un petit peu moins connus que Colette, Proust, je rappelle en deux phrases de qui il s'agissait. Et donc, j'introduis, je commente, et très vite, je me suis rendu compte que c'était... Il y avait une trame dans cette histoire, puisque très souvent, ce sont des gens qui s'interportraiturent, c'est-à-dire Colette fait, disons, prenons l'exemple, Colette fait le portrait de Proust et Proust fait le portrait de Colette. Ça n'est pas arrivé ni dans un cas ni dans un autre, mais enfin, très souvent, on avait assez vite un système qui d'interaction et de un peu de galerie des glaces, c'est toute une section qui porte ce titre. Et donc là, j'ai commencé à organiser un espace qui est un peu plus qu'une simple addition de portraits. Et cet espace, je l'ai voulu tournant, je l'ai voulu vivant, je l'ai voulu mobile. Parfois, j'avais l'image d'un tramway dans ces tramways maintenant dans lequel on monte, un peu dans toutes les grandes villes d'Europe. On monte et on descend, et qui font le tour des villes, et il y a tout le temps quelque chose à voir. On peut les prendre un peu n'importe où, on peut descendre un peu n'importe où. Ça fonctionne, voilà, ça fonctionne.
Et pour terminer sur Colette, il y a quand même un portrait qu'elle fait de Jean Lorrain, où elle commence par ces mots. « La force et la beauté le quittaient déjà lorsque je le connus. Gars normand qui tenait beaucoup à l'épithète de gars, mais qui renonçait facilement dans l'intimité. » Donc c'est très rapidement chez Colette, comme chez beaucoup d'autres, on va le voir, le coup de griffe qui constitue le portrait.
Oui, un côté tigresse qui est propre à Colette, mais qui est aussi propre au genre. Le genre est... Bon, je le dis un peu rapidement, est né surtout au départ, en tout cas socialement, collectivement, dans des cercles de femmes qui se réunissaient, qu'on a appelées les précieuses, et qui étaient très soucieuses de donner d'elles une image quand même plus valorisante que celle que les mâles leur réservaient d'habitude, et qui ont fait beaucoup de portraits valorisés, portraits flattés, disons. Mais assez vite, le genre se devient plus critique, plus dur, se masculinise, si on veut résumer très schématiquement, et devient féroce au sortir de la fronde.
Mais on va remonter même encore plus loin que cela. On va remonter encore plus loin que cela, c'est-à-dire à la préhistoire. Mais d'abord, J'avais envie de vous poser quelques questions sur ce qui entoure votre livre et notamment la double dédicace. Elle est adressée à la fois à Benedetta Craveri, qui est une historienne italienne, et aussi à Fabrice Lucchini. Pourquoi ces deux noms-là?
Benedetta Craveri parce qu'elle est une très forte portraitiste. Elle s'est fait connaître en France il y a une trentaine d'années avec une biographie de Madame du Deffand qui reparaît d'ailleurs en ce moment même, augmentée. Et c'est un livre remarquable. Et Madame du Deffand était elle-même une très grande portraitiste, comme vous le savez. Et Fabrice Lucchini parce que c'est un ami et qu'il a le don assez exceptionnel, entre autres, de radiographier les êtres qui rentrent dans son champ de
vie. C'est un portraitiste.
C'est un portraitiste sauvage, je pourrais dire. Oui, c'est pas quelqu'un qui écrit, c'est pas quelqu'un qui... Mais qui a vraiment ce don de sentir les gens. Quelqu'un arrive dans une pièce, il y a une sorte de rayon X qui se met au travail et qui commence à le dénuder ou la dénuder.
Et c'est en discutant aussi avec lui que peut-être vous avez eu des idées pour un certain nombre de portraits.
Oui, parce que c'est quelque chose c'est un genre qu'il aime beaucoup aussi, sans doute parce que c'est un genre qui est bref, le portrait par excellence va vite, hein. C'est rare que les extraits que je cite dépassent les 2-3 pages, sauf dans les très grands romans comme La Recherche du Temps Perdu où un portrait de Charlus s'étend sur les 1000 pages, donc il est 2 pages plus 2 pages plus 2 pages plus 2 pages, le personnage évolue énormément au cours du roman, mais enfin, en général c'est un genre bref. Et je pense que Fabrice s'y sent bien parce que c'est quelque chose qu'on peut s'accaparer, qu'on peut dire aussi, qu'on peut proférer. Ouais. Et dans lequel on peut s'identifier ou pas. Il y a une forte résonance du portrait parce que on sent vite la personne.
Donc double dédicace, un livre qui est en souvenir de l'écrivain Bernard Minoret. Et puis double exergue, la première c'est une exergue de Lucien Gerfagnon. On n'a pas le droit d'emmerder un lecteur qui ne vous a rien fait.
J'aime bien cette phrase, elle est belle, elle est simple, elle est crue, elle est carrée. Et je pense que c'est un des motos qui ne me quitte jamais quand j'écris. J'écris pour, et particulièrement ce livre-là, je l'ai écrit pour les lecteurs, pour les lectrices.
Pour le plaisir?
Ouais, pour le plaisir des lecteurs et des lectrices. Alors, j'y ai pris le mien, je veux pas non plus me poser en vertu de sacrificiel ou d'altruisme exagéré. J'y ai pris mon plaisir, c'est aussi un journal de lecture depuis que j'ai 10-11 ans et que j'ai commencé à lire un
peu. Ça fait longtemps que vous aviez cette idée quand même du portrait.
Oui, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, que j'ai toujours retenu. Le surgissement des êtres vivants, et c'est en littérature très, très fort. Ce n'est pas facile parce qu'évidemment, comparé à la peinture, à la sculpture et par-dessus tout au cinéma et maintenant à la télévision, je ne parle même pas des réseaux sociaux, la capacité de des arts visuels, des arts plastiques, a priori, est plus grande que celle de la littérature à restituer un être humain dans son surgissement, dont je parlais tout à l'heure. Et en même temps, la littérature a une force unique parce que quand elle sait rendre ce corps qui rentre dans votre espace de perception, qui tout d'un coup se met à bouger, à parler, parfois à respirer, à sentir, à dégager des odeurs, des phéromones, tout un tas de signes d'origine animale en général, la littérature est capable, après, de passer la frontière de la peau. Ce masque, le mot anglais est beau de hide, qui veut dire à la fois la peau et le masque, pour entrer dans l'intimité, l'intériorité et découvrir la psyché du personnage que vous... Et ça, c'est quand même très propre à la littérature, même si certains, évidemment, grands cinéastes, on peut penser à Bergman, on peut penser à... Enfin, il y en a d'autres qui ont su rendre l'intimité d'un personnage, même si quelques très grands peintres, même très grands sculpteurs, je pense au buste de Richelieu par le Bernin qui est au Louvre, où on voit vraiment la pensée de Richelieu, la pensée de l'État par Richelieu. Mais en général, c'est quand même un privilège de la littérature, d'entrer à l'intérieur de cette enveloppe, de rentrer dans la bête, de voir à l'intérieur de cette tête de lion ce qu'il y a. Ça, c'est beau et c'est ce qui m'a toujours bouleversé en littérature. Pas seulement, mais c'est très important.
Voilà, et puis Léonard de Vinci, c'est l'autre citation. Passé 40 ans, un homme est responsable de son visage. Alors ça, c'est un peu vertigineux comme citation.
C'est rude, mais c'est...
Ça veut dire quoi être responsable de son visage?
Bah, c'est-à-dire que
on doit se composer un portrait soi-même.
Voilà, on se... Évidemment qu'on sculpte son visage, on peint ça, et pas simplement parce qu'on peut se maquiller, comme c'est socialement accordé aux femmes. On peut faire plein de choses avec ses cheveux, on peut faire plein de choses avec sa barbe ou pas sa barbe, on peut faire plein de choses avec ses lunettes, on peut faire plein de choses avec son chapeau, avec son béret, mais on peut aussi... peut-être plus profondément, tout ce qu'on est, toute l'expérience existentielle qu'on mène, nous sculpte. Et cette sculpture, elle est coproduite par nous, par le temps, par la société, notre entourage, notre vie affective, notre vie intime.
La Compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons du portrait avec vous, Claude Arnaud. Alors, j'ai dit qu'on remonterait jusqu'à la préhistoire, mais précisément pour dire qu'il n'y avait pas de portrait à la préhistoire. Mais vous, vous êtes quand même allé chercher de ce côté-là.
J'ai allé chercher, c'est beaucoup dire, enfin un peu hein, comme ça, pour boucler ma boucle. Oui, j'ai regardé assez tôt, et c'est vrai qu'assez tôt, dans la vie humaine, dans les grottes, les premiers témoignages qu'on a d'expression humaine, il n'y a pas de visage humain.
Oui, parce que vous liez toujours la question du portrait à la question de la conscience de soi, précisément parce que ce n'est pas encore l'époque où évidemment on a la conscience de soi.
L'apparition de la conscience de soi est très tardive, effectivement, dans ces grottes, la seule trace d'humanité qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les mains négatives, c'est-à-dire que les peintres, ou si on peut les appeler ainsi, qui sont dans les grottes et les cavernes, soufflent une sorte de peinture sur leurs mains posées contre les parois de la grotte, et cette découpe en réserve, ou au pochoir, on dirait aujourd'hui, est leur signature. Mais il y a très, 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 très peu de visages, il y en a un ou deux chez les aborigènes, un ou deux dans une grotte espagnole, mais il n'y a pas de visage fondamentalement. Donc, ce qui est regardé, c'est l'animal qui est le double de l'être humain.
Et aussi parce que c'est l'animal qui est le danger premier, et donc c'est
à la fois la source d'alimentation, à la fois la source de vie alimentaire et source de mort par la prédation. Ouais. Donc c'est lui le vrai alter ego de l'être humain. C'est pas soi, c'est ce qu'il devient, on peut dire, à partir de Montaigne, si on veut aller vite.
Alors, n'allons pas trop vite, justement. Entre-temps, il y a quand même les Grecs, les Romains. Les premiers portraits, c'est quoi? C'est des grands historiens grecs ou romains?
Oui, romains en tout cas, oui, qui tiennent vraiment à décrire des personnages, souvent qui mettent en parallèle personnages de l'Antiquité grecque et de leur propre actualité romaine, qui tente déjà à essayer de saisir un personnage politique, souvent, mais pas seulement, philosophe, pour essayer de décrire quand même comment sa pensée s'articule avec son individualité. Voilà, il y a quand même un début de prise de conscience psychologique qu'on sent peut-être encore plus fort dans les bustes. Il y a au musée du Capitole à Rome, qui est un musée exceptionnel, qui a été rénové il y a très peu de temps, il y a une galerie de bustes de personnages du tout début de l'Empire, qui sont vraiment encore plus qu'en littérature, sont individualisés. Ça, c'est vraiment, on sent un début d'individualisation. C'est jamais le même buste, alors que souvent les bustes jusque-là sont quand même des prototypes de représentation du pouvoir. Là, il y a vraiment un début d'individualisation très fort. Très fort. Ouais.
Alors, on pourrait en peinture citer les portraits du Fayoum si on avait le temps. On ne l'a pas vraiment. Après, la question du premier autoportrait va venir quelques siècles plus tard. Et pour vous, c'est Saint Augustin qui propose le premier autoportrait, Claude Arnaud.
Oui. Si on peut dire ça, même si évidemment, c'est pas, il n'aime pas sa personne, il ne prétend pas du tout à la singularité. Il pense qu'il est quelque chose d'infiniment négligeable, et il assume le fait qu'il n'existe, qu'il ne s'est vraiment découvert, assumé et rendu compréhensible qu'à travers son adhésion à la foi et sous le regard de Dieu. En fait, c'est Dieu qui le fait exister. Il n'est que chaos, désordre, incohérence, déchet d'une certaine façon. Donc, c'est une espèce, à la fois un autoportrait et en même temps une abolition de soi intégrale, puisque d'une certaine façon, c'est le Dieu créateur qui l'a fait vraiment consister. Donc c'est quand même très paradoxal. Et on peut dire qu'en tout cas, il y a quand même un souci, les confessions, le titre sera repris par Rousseau après, c'est quand même pas tout à fait un hasard. Quelqu'un qui se confesse, c'est quand même un je qui parle, même si ce je dit qu'il ne vaut rien et qu'il n'existe que dans la lumière de Dieu.
Mais il faut attendre réellement Montaigne, ce que vous disiez à l'instant, Claude Arnaud. On va très vite, évidemment, votre livre détaille bien davantage les différentes étapes intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe avec Montaigne fait que le portrait, tout d'un coup, et l'autoportrait, va vraiment prendre une place réelle dans la littérature?
Bah, c'est un peu étrange, ça le surprend lui-même. C'est donc, on peut dire, un amateur qui a été maire de Bordeaux, qui se retire dans sa librairie et qui décide de dire un peu ce qu'il pense de ses lectures des grands sages de l'Antiquité, grecque et latine. Donc c'est un humaniste, un honnête homme de la Renaissance tardive, et qui décide de dire ses impressions de lecture. Voilà, un peu son journal de lecture lui aussi, si on peut.
Parce que c'est un portrait finalement de vous aussi, cette anthologie.
Oui, bah oui, forcément, puisque à partir du moment où vous en faites un journal de lecture, vous en faites des choix, vous dites quand même quelque chose de vous, et je fais en sorte que ce livre ne soit jamais impersonnel, hein. Il y a trop de portraits de personnes pour rester impersonnel. Donc il y a forcément une réaction, j'aime pas, il y a des choses que c'est ma façon aussi de dire ce que j'aime en littérature, et d'une certaine façon, Montaigne a commencé comme ça. Avec une certaine liberté pour l'époque, il n'a pas peur de dire qu'il n'est pas un spécialiste, il n'est pas un philosophe, il n'est compétent en rien, mais il parle comme vous et moi, quoi, comme on se parle quand on lit un livre et qu'on dit « oh bah ça c'est pas mal, ça m'emmerde, oh, il aurait pu faire plus court », et de cette espèce de franchise étrange pour un amateur, mais qui encore peut s'expliquer, et tout d'un coup il décide que ce point de vue, il faut l'assumer, c'est-à-dire le fait qu'il est lui, non pas un sage de l'Antiquité, non pas un philosophe de la Renaissance tardif, non pas un grand maître de la Sorbonne, des sciences de la scolastique, mais juste un homme retiré qui dit ce qu'il pense. Et du coup, il va s'engouffrer dans son livre et dire qui il est, pourquoi il se permet ça. Et en disant qui il est amené à dire ce qu'il est, non seulement ce qu'il pense, mais qui il est profondément, ou plutôt ce qu'il n'est pas, parce que c'est ça qui est beau chez Montaigne, c'est que il ne prétend pas être quelque chose, il est une sorte de force ondoyante et mouvante. Et là commence un vertige qui finalement va le mener à des centaines et des centaines de pages sur ce cas étrange qu'il est lui-même. Ça, c'est complètement inédit, ça, c'est sûr.
Alors, écoutons précisément un extrait des essais lus par Didier Sandre.
Je serai vrai. Je le serai sans réserve. Je dirai tout. Le bien, le mal, tout, enfin. Je remplirai rigoureusement mon titre. Et jamais la dévote la plus craintive ne fit un meilleur examen de conscience que celui auquel je me prépare. Jamais elle ne déploya plus scrupuleusement à son confesseur tous les replis de son âme que je vais déployer tous ceux de la mienne au public. Qu'on commence seulement à me lire sur ma parole, on n'ira pas loin sans voir que je veux la tenir. Il faudrait, pour ce que j'ai à dire, inventer un langage aussi nouveau que mon projet, car quel ton, quel style prendre pour débrouiller ce chaos immense de sentiments si divers, si contradictoires, souvent si vils et quelquefois si sublimes, dont je fus sans cesse agité. Si je veux faire un ouvrage écrit avec soin comme les autres, je ne me peindrai pas, je me farderai. C'est ici de mon portrait qu'il s'agit, et non pas d'un livre. Je vais travailler, pour ainsi dire, dans la chambre obscure. Il n'y faut point d'autre art que de suivre exactement les traits que je vois marqués. Je prends donc mon parti sur le style comme sur les choses. Je ne m'attacherai point à le rendre uniforme. J'aurai toujours celui qui me viendra. J'en changerai selon mon humeur, sans scrupule. Je dirai chaque chose comme je la sens, comme je la vois, sans recherche, sans gêne, sans m'embarrasser de la bigarrure. En me livrant à la fois au souvenir de l'impression reçue et au sentiment présent, je peindrai doublement l'état de mon âme. Savoir au moment où l'événement m'est arrivé et au moment où je l'ai écrit. Mon style, inégal et naturel, tantôt rapide et tantôt diffus, tantôt sage et tantôt fou, tantôt grave et tantôt gai, fera lui-même partie de mon histoire. Enfin, quoi qu'il en soit de la manière dont cet ouvrage peut être écrit, ce sera toujours par son objet un livre précieux pour les philosophes. C'est, je le répète, une pièce de comparaison pour l'étude du cœur humain. Et c'est la seule qui existe.
la compagnie des auteurs sur France Culture. Je vous voyais écouter attentivement cet extrait des Essais de Montaigne. Qu'est-ce qu'il vous évoque?
Ce qu'il y a de frappant, c'est la comparaison avec la confession. C'est aller au-delà de la confession, dans la mesure où, effectivement, la confession, ben, saint Augustin, on vient de le voir, l'avait bien dit, trouve sa limite dans le fait que le sujet doit à un moment rencontrer Dieu, s'abolir en Dieu, se soumettre à Dieu. Là, il est clair que c'est quelqu'un qui va aller au-delà et qui va non plus se regarder dans le miroir céleste, mais dans son miroir, avec tout ce que ça peut avoir de démoralisant, de dégradant parfois, mais aussi parfois aussi de troublant, d'agrandissant. Et c'est une entreprise systématique qui est vraiment... Là, il est vraiment un pionnier. C'est rare qu'on puisse dire aussi clairement dans un genre, dans un art, voilà quelqu'un qui a vraiment inventé quelque chose, ou en tout cas créé un territoire qui était complètement friche jusque-là, en tout cas qui a débroussaillé ce territoire-là. Et très souvent, lui-même compare ça indirectement à la conquête de l'Amérique et effectivement aux descriptions qu'ont ramené les premiers voyageurs.
C'est toujours la question de l'altérité. On ne peut faire son portrait que par rapport aux autres.
Aux autres.
Et ouais. Finalement, découvrir qu'il y a des autres qui sont radicalement différents de vous,
vous éclaire.
Vous permet
de faire votre portrait en comparaison. Donc la découverte des Indiens, hein, qui marchent quasiment nus dans la nature américaine, fait aussi parmi les déclencheurs de la quête de soi de Montaigne, puisqu'effectivement, c'est l'époque où on découvre des gens radicalement différents de nous, qui ont tout à fait une autre culture, d'autres modes de vie, et qui sont là, et qu'on voit même, et il envoie même à Rouen une délégation d'Indiens qui
arrive. Il en fait des portraits aussi?
Alors, il les décrit dans les rues de Rouen, tout le monde est ahuri, lui le premier, et eux-mêmes sont ahuris, parce qu'ils voient cette autre civilisation qui est la nôtre, et de cette espèce de choc électrique de culture, il tire aussi cette certitude qu'il y a quelque chose à décrire en nous. Nous ne sommes pas cette espèce d'immanence qu'on est plus ou moins quand on vit dans sa propre tribu, sans en sortir et sans sortir de sa culture encore plus.
Vous dites que leur portrait réveille la stupeur fondatrice de l'enfant découvrant qu'il existe en dehors du cercle étroit de la famille.
Voilà, ou de l'enfant qui entend des gens parler une langue qu'il ne comprend pas, ce qui lui semble tout à fait impossible, extraordinaire, impensable. Donc il y a, une fois qu'on a saisi le fait que d'autres êtres vivants parlent une langue et se comprennent, alors que nous ne les comprenons pas, laisse supposer qu'il y a tout un système, on peut dire culturel, mais aussi presque psychique, qui les régit et qui est différent d'une autre. Donc ça veut dire qu'ils sont différents de nous. Donc ça veut dire que nous pourrions être différents de nous-mêmes si nous avions grandi en Amérique au temps des grandes tribus indiennes, ou même dans le pays voisin, simplement en traversant la frontière.
Mais alors, on est toujours, même si l'on sort de la préhistoire pour entrer dans l'histoire du portrait, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était finalement avec les précieuses qu'on entrait réellement dans l'histoire du portrait. Comment se fait ce mouvement qui va de Montaigne jusqu'aux précieuses, Claude Arnault?
Alors, c'est pas vraiment un mouvement, parce que Montaigne est complètement unique, donc on dirait pendant un petit siècle, il reste un peu tout seul, quoi. Il y a cette espèce de monolithe qui tombe sur les... C'est un grand succès, les Essais, dans toute l'Europe. Pas simplement la France, il y a une stupeur devant cet homme qui se décrit avec ses faiblesses, son inconstance.
Ça ne crée pas de vocation.
Non, pas tout de suite, non. Bizarrement, c'est tellement énorme, c'est tellement complet. Je pense que, je sais pas, il y a quelque chose qui, c'est peut-être trop tôt, d'une certaine façon. Alors que quand même, la Renaissance, il y a tout cet humanisme, il y a cette vogue des portraits peints qui précède Montaigne, que ce soit en Italie ou en Hollande. Donc il y a quand même, le sujet est dans l'air, mais cette intériorisation, cette très grande, très fine psychologie, mais ondoyante, souple, n'est pas encore à la portée de tout le monde. Voilà, ça surprend tout le monde. Et effectivement, pour que ça rentre vraiment dans le, on peut dire dans le champ social, hein, pour parler comme les savants, c'est le moment où, au sortir de la Fronde, qui est une époque de très grande violence, des femmes se réunissent, créent ce qu'on appelle les premiers salons, et se concertent comme ça pour justement sortir de cette époque de grande violence qu'on pourrait dire masculine, même s'il y a beaucoup de femmes dans les frondeuses qui sont très violentes elles-mêmes, mais enfin bon, il y a en tout cas une tentative de... Et on fait société, et ces femmes-là, le premier genre qu'elles trouvent pour s'exprimer après la conversation orale, c'est le portrait. Elles se portraitisent, interportraitisent, et je l'ai dit rapidement tout à l'heure, pour se mettre en valeur, pour montrer aux hommes qui elles sont, quelles sont leurs qualités spécifiques et en quoi elles sont dignes d'être portraiturées, ce qui n'était peut-être pas si évident que ça à l'époque.
Donc vous diriez que l'émergence de ce type de portrait, du portrait en tant que tel, est concomitant de la modernité, qu'il est un signe de la société moderne, d'une nouvelle place aussi de l'individu dans la société.
Oui, ça va évidemment avec le surgissement de l'individu, de la prise de conscience de soi et d'une de fait que le sujet ne se définit plus uniquement par son dieu, sa place dans des corporations, dans des métiers, dans des castes, dans des provinces, dans des rangs sociaux ou familiaux, mais qu'il commence aussi à considérer qu'il est peut-être quelque chose en soi. En tout cas qu'il a peut-être quelque chose à lui qui n'est pas simplement défini par son entourage.
Alors ça, c'est le portrait très agréable, très charmant, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Claude Arnaud, les portraits vont se durcir avec, par exemple, le cardinal de Retz. On écoute ce portrait un peu plus salé qu'il fait de la reine d'Autriche.
La reine avait, plus que personne que j'ai jamais vu, de cette sorte d'esprit qui lui était nécessaire pour ne pas paraître sotte à ceux qui ne la connaissaient pas. Elle avait plus d'aigreur que de hauteur, plus de hauteur que de grandeur, plus de manière que de fond, plus d'inapplication à l'argent que de libéralité, plus de libéralité que d'intérêt, plus d'intérêt que de désintéressement, plus d'attachement que de passion, plus de dureté que de fierté, plus de mémoire des injures que des bienfaits, plus d'intention de piété que de piété, plus d'opiniâtreté que de fermeté, et plus d'incapacité que de tout ce que dessus.
Une lecture par François Mestre, c'est le portrait dur, mais le portrait amusant aussi, Claude Arnaud.
Mmh. Oui, là on voit les deux coups de griffe et petits coups de plumeau, si on peut dire. Mais enfin, on sent quand même qu'il y a un principe qui n'est pas entièrement positif, hein, qu'on cherche derrière le théâtre royal, derrière la personne de commandement, on cherche quand même le masque et les mensonges et les paravents et les pare-feux. Mmh. Donc c'est quand même une démolition, c'est une démolition encore aimable, mais enfin ça commence à être dangereux, ça sent le roussi.
Oui, et puis c'est sortir ce que les autres veulent cacher finalement. Il y a côté à la fois investigation et puis mettre à nu et mettre à mort à travers le portrait.
Oui, c'est comme si on dépliait un paravent derrière lequel la personne se cache et on passe derrière le paravent, on commence à voir l'être nu, l'être qui se met en scène sur ce théâtre du pouvoir royal, mais qui n'a pas les vertus qu'il prétend avoir ou les a pas forcément pour de bonnes raisons.
Oui. C'est quelqu'un, le cardinal de Retz, que vous aimez beaucoup, vous le citez plusieurs fois dans votre anthologie.
Oui, je l'aime bien, c'est pas celui que je préfère. Je l'aime bien, mais il est, dans sa férocité, il est vraiment assassin. Et parfois, c'est une réduction à l'os, je compare ça aux têtes que les Givaro coupaient sur les corps de leur adversaire, puis réduisaient jusqu'à pas grand-chose. Cette réduction, parfois, est un peu limitative, si on doit prendre quelqu'un qui écrit un petit siècle après lui, mais parfois d'ailleurs recoupe les mêmes personnages, qui est Saint-Simon. Saint-Simon est, en étant tout aussi féroce, est infiniment plus abondant, généreux, complexe, attribue toute sa richesse à l'être qu'il décrit et même parfois qu'il démolit. Mmh. Et là, il y a un pur génie. Retz, c'est un réducteur de tête. Voilà, c'est ça fait rire. Ça fait froid dans le dos parce qu'on sent la lame qui passe toujours très près du cou et parfois y pénètre sans réserve.
Mais il est très français dans cet art du portrait qui est souvent un art de la méchanceté. Enfin, l'art de la méchanceté comporte ça aussi.
Bien sûr. Il y a cette réduction très française. Et d'une certaine façon, ce livre, là encore, et je pense plus qu'une anthologie, puisque j'essaie de décrire au fond la formation de cette culture féroce qui se constitue, et d'une certaine façon, ce qu'on a dit à partir de Saint-Augustin et de Montaigne le confirme, c'est-à-dire que C'est une société qui a été soumise au regard de Dieu et puis au regard du roi et qui progressivement s'est libérée de ces deux regards pour se regarder elle-même. Mmh. Et se regarder elle-même entre individus, d'individu à individu. Et cette acuité, cette précision dans le regard, dans la description, dans le portrait, l'hétéroportrait, l'autoportrait et l'interportrait, a fini par créer un réseau de surveillance peut-être plus dur et féroce que celui qu'exerçaient Dieu et le roi auparavant sur cette même société. Donc c'est l'histoire à la fois d'une libération et d'une surveillance cruelle dont, je dirais, on souffre encore aujourd'hui. Quand je dis on souffre, c'est au double sens du terme.
Oui, on en souffre peut-être.
En souffre peut-être quand même encore aujourd'hui. C'est-à-dire ce caractère implacable de l'observation, de la surveillance qu'on exerce sur autrui au nom de la liberté.
Oui, et on le retrouve chez les humoristes aussi, qui c'est un style.
Bien sûr, les humoristes. On le retrouve dans la vie, dans notre rapport aussi aux gens qui nous dirigent, dans le rapport aussi y compris à nos vedettes, y compris à tout ce qui semble éclairé par une lumière intérieure, soit sociale, soit humaine, soit artistique. Il y a ce rapport-là de prédation, d'observation, de prédation et de surveillance. C'est finalement une société peut-être moins libre qu'elle ne le croit, même si cette surveillance et cette critique s'exercent toujours au nom de la liberté.
Ouais. Et pourtant, déjà, à l'époque, un certain nombre de personnes, dont Pascal par exemple, et peut-être de manière plus globale, ceux qui étaient les plus religieux dans cette société-là, rejetaient ce portrait très dur qu'on avait l'habitude de faire dans les cercles, notamment ceux proches du pouvoir, Claude Arnaud.
Oui, alors Pascal et tout, on peut dire les jansénistes globalement, se méfient du portrait, puisque c'est accorder trop de valeur à l'être humain. Là, ils sont fidèles à Saint-Augustin. On ne parle de soi que pour montrer ses limites, sa misère, sa guéenne, sa vilénie. Et en même temps, les jansénistes sont obligés de reconnaître que dans cet exercice de la confession, bah, comme le nom l'indique, il y a une origine religieuse aussi. Hein. C'est quand même le christianisme qui a en partie introduit le ver dans le fruit. À partir du moment où il y a un sujet qui est responsable de lui-même moralement, qui doit donc justifier de ses actes devant son Dieu, ben ce sujet, il est quand même en partie individuel. Donc il existe, qu'on le veuille ou non. Donc le fait qu'il se considère, se décrive, relève en partie d'une logique religieuse. Ce qui ne va pas pour les jansénistes et pour la religion en général, c'est de se prendre pour finalité.
Monseigneur le Grand Dauphin, fils de Louis XIV, bon imbécile, prince borné, sans vice ni vertu, sans lumière ni connaissance quelconque, radicalement incapable d'en acquérir, se noie dans la graisse et l'apathie. De caractère, il n'en avait point. Il était né pour l'ennui qu'il communiquait et pour être une boule roulant au hasard par l'impulsion d'autrui. Il était inintelligent au possible, gros mais pas entassé, du sens mais pas d'esprit, un tissu de petitesse arrangé, doux par stupidité, avare à ses maîtresses, son peu de lumière éteint par son trop d'éducation, ayant pour toute lecture le carnet mondain et les nécrologies de la Gazette de France.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, vous l'avez reconnu, Claude Arnaud, lui, c'est le patron, Saint-Simon. Vous avez dit qu'il était tout aussi cruel que les autres, mais avec peut-être un peu plus de densité, on l'entend ici.
Mmh. Oui, alors ce qu'il y a de bon, prodigieux chez lui, pour moi, c'est le plus grand, c'est le plus inouï, c'est cette capacité d'investir les êtres, y compris les êtres qu'il déteste, les êtres qu'il aimerait voir mourir, ou qu'il aurait aimé voir mourir, puisqu'il écrit quand même souvent après la mort des gens qu'il décrit. C'est d'ailleurs ça qui rend sa vitalité incroyable. La plupart des gens qu'il portraiture sont morts, et pourtant ils sont beaucoup plus vivants qu'ils ne l'étaient sans doute de leur vivant. Sa force, c'est ça. C'est une sorte de danse de Saint-Guy. Souvent, je le voyais comme une espèce d'oiseau de proie qui surveillait la cour, qu'elle soit à Saint-Cloud, à Versailles, ou même à Fontainebleau, et qui repère les individus, je veux dire, intéressants, les intrigants qui se poussent, qui s'avançaient vers le roi pour se faire remarquer, pour quémander des postes, des titres et des situations. Et il fond sur eux, et il, avec son bec comme ça, il rentre dans le crâne et il commence à fouiller là-dedans. Et ce qu'il trouve est absolument inouï, parce que même, même les plus, apparemment les plus médiocres, les plus serviles, les faux dévots, les gens affreux ou qui nous semblent affreux, trouvent une espèce d'épaisseur, une consistance et surtout une ardeur dans leur projet fou, leur projet ignoble, leur projet atroce, qui leur, quand même leur restitue une forme d'humanité exceptionnelle. Donc, au contraire du cardinal de Retz, qui est vraiment un assassin presque sans phrase, hein, qui larde en trois coups de poignard et tue, Saint-Simon prolonge sa victime, parce qu'il la, il la tue pas tout de suite, il la fait vivre. Et ça, c'est à ce moment-là de suspens où on sent que c'est un désastre, ce personnage d'Ariane, mais il trouve encore des étages, des niveaux dans l'horreur de ce qu'il décrit, et parfois il trouve, tout d'un coup, il y a un éclair de grâce, de bonté, de charme, parce que les pires ont quelque chose à eux, et c'est en ce sens-là qu'il est un immense écrivain. Il y a, il y a une humanité chez tous ces monstres, il y a une humanité chez tous ces courtisans rampants, et comme il y a un défaut toujours chez les personnes qu'il trouve presque angéliques, il y a toujours un vice de forme, voilà, dans le bien comme dans le mal.
Et il y a l'un de ses portraits que vous avez lu assez jeune, je crois, c'est le portrait de Louis XIV. Il était très critique vis-à-vis non seulement de Louis XIV, mais de tout le système, en fait, de la monarchie à cette époque-là. Et ce portrait-là, vous l'avez lu assez jeune, et il vous a tout de suite illuminé, c'est ça ?
Non, alors j'ai lu, comme je le dis dans le livre, j'ai lu Saint-Simon assez tard, parce que c'est c'était un système... je pense qu'il appartenait au patrimoine et à une époque où c'est pas ça du tout qui m'intéressait. Il y avait quelque chose de trop historique dans Saint-Simon, et c'est vrai qu'il pour bien le lire, il faut avoir quelques petits repères que j'essaye de donner au fur et à mesure, et parce que ben oui, il décrit vraiment le système d'une cour centrée autour de ce roi soleil absolutiste qui a asservi la noblesse. Et surtout la haute noblesse, pour mieux faire monter des bourgeois qui l'anoblissent à tour de bras et qui lui sont évidemment totalement dévoués, ce qui horrifie Saint-Simon. Et effectivement, c'est derrière la critique d'un système et derrière la critique d'un homme qui est Louis XIV. Donc il y a ce portrait très très impressionnant, très extraordinaire. Mais là aussi, Louis XIV est à la fois quelque chose que Saint-Simon déteste, qu'il critique vraiment très frontalement. Alors Louis XIV est mort, c'est pas risqué de le faire, mais enfin quand même il le fait sans aucune prudence. Et en même temps, il lui reconnaît ses grandes qualités enfin il en fait le portrait d'un homme qui est comme une espèce de d'autodidacte complet, parce que le jeune Louis XIV a grandi dans les jardins, enfin dans le palais royal, donc au centre de Paris, mais au moment de la Fronde, la ville et le pays vont vraiment très très mal, on est au bord de la guerre civile, on y est d'une certaine façon, et personne ne s'occupe vraiment de lui. Donc en fait, c'est quelqu'un qui s'est pris complètement en main, qui a décidé qu'il ferait le roi et qu'il mettrait le fin à ce désordre. Et il est né roi par ses droits généalogique, mais il se fabrique roi entièrement et il apprend les choses presque tout seul au fur et à mesure.
Tout à l'heure, vous avez comparé Saint-Simon à un aigle. Donc vous faites finalement ce dont vous parlez dans votre livre, c'est-à-dire que vous animalisez les personnages. Et ça, c'est une tendance qui va être la tendance du 19e siècle. Alors on a envie quand même de vous demander si ce n'est pas La Fontaine qui d'abord animalise, mais vous... vous placez plus loin cette animalisation.
Oui, l'animalisation, elle est très forte dès le XVIIe siècle, parce que il y a cette espèce de la vie de cour, je pense. C'est comme un zoo, c'est comme une réserve. Donc il y a tout un tas de types d'animaux. Le grand peintre de Louis XIV s'appelle Lebrun, est connu pour des planches de gravure où il part de 7, 8, 9, 10 types d'animaux qui sont le mouton, le bœuf, l'aigle justement.
Il y en a un qui revient
le lion,
plus souvent que les autres.
Et décline toutes les variantes jusqu'à arriver à des visages d'hommes qui effectivement nous rappellent le lion, le mouton, le bœuf. Oui, il y a des types de d'animaux qui sont régulièrement convoqués pour opérer les comparaisons avec les êtres humains. Ça, c'est une science qui s'est même appelée la physiognomonie à partir du XVIIIe siècle, qui donc essaye de retrouver, en étudiant les visages, essaye de retrouver nos antécédents supposés animaux, hein, puisque à l'époque, bon, on descend du singe, mais enfin, c'est pas si clair que ça, et donc on a l'air de on pourrait descendre de plusieurs espèces différentes. Donc, il y a ce fantôme de notre origine animale qui revient très fort. Après la Renaissance, qui au contraire est une époque où vraiment où l'homme s'assume en tant que tout à fait à part, là, 17e, 18e siècle, et encore plus après la Révolution, l'animal revient en force et nous travaille, quoi, de l'intérieur. Parce que appétit social, férocité de conquête, goût du pouvoir, goût érotique de la prédation, tout ça se libère. Tout ça, au fur et à mesure que la société se libère, bah, l'animal revient.
Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple, alors, je ne sais pas, soit chez Balzac, soit chez Hugo, vous citez même le signe de Mallarmé, qu'est-ce qui vous vient comme ça spontanément ?
Les romans de Balzac sont pleins de lions. C'est des jeunes gens, c'était même le nom qu'on donnait aux jeunes ambitieux qui vivaient à Paris, qui se retrouvaient au boulevard de Gand. Qui sont des lions parce qu'ils sont, ils ont un appétit féroce, qu'ils sont nés de leur province, quand la Révolution a fait tomber le roi, quand les octrois qui protégeaient Paris sont tombés, donc on a pu rentrer librement dans la ville. Et il y a cet appétit énorme parce qu'il y a des places qui se libèrent, parce qu'il y a des classes nouvelles qui montent, parce qu'il y a des postes à prendre, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui arrivent avec l'industrialisation, parce que la société est un chantier en pleine refondation.
Mais donc c'est des métaphores qui ne s'usent pas, ces métaphores animales. Par exemple, celle du lion, on pourrait imaginer qu'une fois qu'elle a été employée une dizaine de fois, ça devient un cliché. Est-ce que c'est le cas?
Bien sûr, ça devient un cliché, mais enfin, ça sert quand même... en tout cas jusqu'au naturalisme, jusqu'à Zola, où le naturalisme est plein d'animaux humains, quoi. Il y a toujours cette idée quand même d'une société féroce et désormais livrée à la libre entreprise, à la compétition, le fameux renard dans le poulailler qui était une façon de décrire le libéralisme.
Ouais. Et plus tard, Proust aussi va utiliser un certain nombre de métaphores animales, et on pense en particulier à la scène Charlus Jupiter de leur rencontre. Je cite Proust, recité par vous. On eût dit deux oiseaux, le mâle et la femelle, le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, Jupien, en ne répondant plus par aucun signe à ce manège.
Alors Proust est un grand, utilise beaucoup des métaphores animales, surtout quand il décrit la sexualité. Il y a très souvent des métaphores de bourdon, de pollen, il y a tout un trafic d'influences hormonales, polliniques. Évidemment, ça lui permet d'écrire toutes les bizarreries de la sexualité humaine qu'il adore. Et qui effectivement, et là-dessus, il a été très nourri par la lecture de Fabre, qui est ce très grand naturaliste que je cite beaucoup, que j'ai découvert, parce qu'évidemment, ce livre était... J'ai fait aussi en sorte qu'il soit un plaisir pour moi. Il y a beaucoup de choses que je m'étais promis de lire un jour et que j'aurais certainement pas eu le temps de lire sans cette occasion qui m'a été donnée de faire ce livre dans la collection bouquins. Fabre est un personnage magnifique parce que c'est un amateur, un pur amateur qui, à la fin du 19e siècle, en Corse, a eu une révélation comme ça en voyant des espèces rares et a décidé de s'occuper d'espèces très, très, très peu étudiées jusque-là. Et surtout des insectes ingrats, moches, cruels, qui s'entretuent, qui vivent en ramassant le caca des autres espèces. Et il a passé sa vie pratiquement allongé dans la boue, dans la terre, à observer à la loupe et à capturer dans des petites boîtes en bois qu'il fabriquait lui-même des petits insectes effroyables comme ça.
Et donc Proust fait la même chose avec ses contemporains.
Avec ses contemporains. C'est son grand modèle.
Je crois que le visage humain, pour moi, c'est le sommet, n'est-ce pas, de la création. C'est vraiment le théâtre des théâtres, n'est-ce pas ? Il y a tout dans un visage humain. Si on le regarde physiologiquement, c'est un ensemble d'instruments, n'est-ce pas, qui sont faits pour voir, pour respirer, pour sentir, pour etc. Mais il y a là, d'ailleurs, le mot visage, je veux dire, c'est ce qui, dans l'être humain, tombe sous la vue, est fait pour être vu. C'est par là que l'être peut être saisi dans son essence, n'est-ce pas? C'est par là qu'il voit et par là qu'il communie à la nature et par là qu'on communie avec lui, n'est-ce pas? On parle, les mystiques, de voir la face de Dieu, c'est le paradis, n'est-ce pas? Être privé de la vue de cette face, c'est... Eh bien, pour moi, n'est-ce pas, j'ai dit que je pourrais rester l'éternité devant un visage humain sans manquer de joie et de sujet de méditation et de réflexion.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Vous avez reconnu cette voix, Claude Arnaud ?
Oui, Jouando, c'est très beau. C'est un très, très beau passage. C'est quelqu'un qui est allé très loin dans la réflexion sur le portrait, le visage, et qui a lui-même laissé évidemment des très, très beaux portraits.
C'est un regardeur.
C'est un regardeur, voilà. C'est un voyeur, d'une certaine façon. C'est voyeur, un regardeur. Oui. Mais pas un voyeur au sens où Proust, par exemple, on peut vraiment considérer qu'il y a une essence voyeuriste dans sa description, en particulier de la sexualité humaine. Chez Jouando, c'est plutôt un sans doute, il y a un peu, il se substitue peut-être à un regard quasi divin, c'est-à-dire d'aller pénétrer la conscience de l'autre et de s'y installer, de s'installer dans la psyché de l'autre, dans l'intériorité de l'autre et de le prendre, de le saisir. Et il y a une grande finesse, une grande délicatesse dans les portraits de Jouando. C'est très,
oui.
c'est
un une délicatesse et aussi là une cruauté parce que dans Chaminadour, Chaminadour étant le nom fictif de la ville de Guéret, tout le monde s'est reconnu, évidemment, et les portraits qu'il faisait des habitants de Guéret n'étaient pas forcément très amènes. Et je crois que on passait de maison en maison pour se lire
Les passages, les habitants eux-mêmes allaient prévenir leurs voisins en disant « mais vous êtes là ». Bon, ce qui a rendu évidemment la vie de Jouando très difficile.
Oui, c'est tout le problème du portrait, c'est qu'on se reconnaît dans les portraits.
Voilà, on se reconnaît dans les portraits. Évidemment, Guéret n'est pas une très grande ville, je ne suis jamais allé, mais il me semble que c'est pas infini, Guéret. Donc les gens se connaissaient, il était le fils du boucher de Guéret qui était installé là. Il a fait d'admirables portraits, en particulier des commis de son père, des commis bouchers de son père, avec... Il y a vraiment un don impressionnant pour ça, oui, de rentrer dans cette peau souple et de rendre presque tout transparent de l'être profond. Ça, c'est un don de quasi visionnaire. Ouais. C'est sans doute ce que j'aime beaucoup dans le genre et au-delà, parce que c'est ce don à la fois d'empathie et de critique aussi, parce que l'empathie ne suffit pas.
Le XXe siècle, ce ne sera pas tellement en littérature le siècle des portraits, ni même le XXIe sans doute.
C'est pas les plus grands siècles, et pourtant ça persiste comme une espèce de... plus qu'un fantôme dans notre goût. Aujourd'hui, l'individualisme aujourd'hui il est plus fort que jamais, le narcissisme, n'en parlons pas.
Prend d'autres formes, peut-être moins littéraires.
Ça prend d'autres formes, la curiosité pour les personnages en vue, pour les célébrités.
Le portrait journalistique, en revanche.
Portrait journalistique qui triomphe plus que jamais aujourd'hui. Mais on peut en trouver en littérature. Je cite Houellebecq, je cite Camille Laurens, Hervé Guibert. Il y a quand même beaucoup d'exemples. On voit, ça continue, en fait. Le genre continue. Peut-être qu'il n'est plus isolé, il n'est plus reconnu par les lecteurs en tant que tel, mais il continue de nourrir, de baigner nos lectures.
Hervé Guibert et son fameux portrait de Foucault, notamment.
Oui, oui. Là, je cite un autoportrait dans son Mausolée des Amants, qui est son journal, qui est peut-être pour moi son plus grand livre, où il se décrit, c'est un autoportrait d'une grande tristesse, d'une grande sincérité, en garçon seul, qui vit avec sa littérature et il se voit dans le miroir de ses voisins qui se demandent mais qu'est-ce que fait ce garçon à 25 ans qu'on voit toujours seul, qui ne mange pas chez lui, et il a un pressentiment extrêmement aigu de la compassion, avec les réserves aussi que peut entraîner la compassion, qu'il suscite chez ses voisins. C'est très remarquable.
Et l'autofiction, Claude Arnaud, c'est l'autoportrait ou c'est encore autre chose?
Alors, c'est évidemment, oui, on peut dire que ça appartient à ce grand fleuve de l'autoportrait ou de l'hétéroportrait, parce que dans l'autofiction, il y a quand même aussi quelques autres qui surnagent, pas toujours en très bon état, mais enfin qui existent face au sujet central un peu envahissant, un peu dévorant. Oui, bah oui, on peut considérer que c'est dans la suite directe. Disons qu'on peut dire que la littérature contemporaine et surtout de langue française, est quand même très fortement marquée par l'invasion de l'auteur. L'auteur envahit ses propres livres, contamine ses propres livres, et donc fait son portrait à travers l'histoire qu'il raconte ou les portraits des personnages qui l'entourent. Donc il y a une espèce de... L'autoportrait, disons... ça serait plutôt aujourd'hui l'autoportrait qui donnerait lieu à des livres, à des fictions. L'auteur se choisit comme objet, mais évidemment, c'est très bien qu'il ne peut pas parler que de lui, parce que quand même le lecteur le plus complaisant en a très vite ras-le-bol, donc va étendre son moi à plus large, parfois toute une intrigue, parfois toute une enquête, éventuellement policière. Mais la base, effectivement, va être assez vite une forme d'autoportrait.
Un grand merci à vous, Claude Arnaud, pour être venu nous parler de l'art du portrait au travers des siècles. Je rappelle que votre anthologie s'intitule Portrait craché, qu'elle flirte tout de même avec les 1000 pages et qu'elle est disponible dans la collection bouquins chez Robert Laffont. Demain, c'est la suite de notre semaine spéciale de suggestions pour Noël. Nous vous parlerons de la reparution dans une version non expurgée des œuvres complètes de Mathieu Gallet. Puis, nous vous parlerons des œuvres complètes de Bret Easton Ellis. Tout de suite sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la poésie. C'est évidemment, comme chaque jour, Jacques Bonnafé.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Depuis la fin des années 1940, Bernard Collin écrit chaque jour, dans des cahiers à spirale petit format comportant 96 pages chacun, une page par jour, une ligne sur deux qui font 22 lignes par jour, du lundi au samedi, presque sans exception. L'œuvre très vaste de Bernard Collin est pour une grande part encore inédite. De cette immense matière d'une puissance surprenante, les éditions Nous publient le plus large ensemble proposant l'intégralité des 6 cahiers récents. Tiré de sang d'autruche, un homme se réveille. Il allume ses pensées sur le moment, deuxième, troisième pensée sur les moments connus de personne. Année de guerre, année écrite, l'année, 12 mois de ferry. Je me réveille, j'allume, écris une journée, vécu une journée, les autres recommenceront, les autres multiplieront, ce n'est pas le travail d'un homme qui se réveille. Une chambre claire, une bouche bien ouverte pour capturer les poissons. Il me reste 337 jours, encore du travail pour 337 années. Une pensée travailleuse le matin. Je parlerai comme un compagnon parle de la qualité couvrante d'une peinture. Couvre le langage, couvre le sommet, plus près de gu, de que, de g, de k, de n'cop. Je parlerai napolitain. En haut, couvercle, une nappe couvrant la terre comme l'eau sur tout ce qu'il voit. Couvrant le sol devant lui, aussi loin qu'il cherche, qu'il marche, etc., etc. Pris sur un autre texte, sous peine d'expulsion de la terre, chaque habitant portera la tenue de son espèce. Le premier qui descend cette nuit de la montagne Dante l'a entendu sortir de son donjon au premier mangeur de poules qui coupe par le terrain sans respirer, Dante au poil roux comme un renard, fils de plusieurs pères, Dante a aboyé. Et celui-ci, celui-là ne parlant à personne pendant des années et juste lisant le journal, langue propice aux informations, et celui-là peu à peu oubliant la langue qu'il parlait, imitant la langue parlée nulle part de ce journal, adoptant les nouvelles, celui-là un peu plus loin de la vie, imaginé chaque jour. Il croit que son langage n'a pas vieilli, chaque jour lisant un langage frais, illusion de fraîcheur. Un homme peut en tuer un autre pour le bruit que vous faites. Vous n'avez jamais vu un singe secouer un arbre pour appeler, pour faire peur à un autre, secoué de toutes ses forces. Viens te battre si tu es le chef, sans parole si ressemblante, si adhérente, cette façon de se jeter dessus, ne pas lâcher. Ne pas lâcher, muette, absolument, une multitude muette. Entre des hommes actifs, un jour, il n'y aura plus de papier. Un jour, l'écriture aura disparu. Vous êtes plongé dans les erreur, capable rien qu'avec ce mot, capable seulement. Pourquoi répétez-vous les mêmes paroles, un mot par jour, vider, épuiser quelque chose? Pourquoi dites-vous des choses si contraires à l'anatomie? J'ai faim, elle répétait. Je n'ai rien mangé aujourd'hui. Je vais vous chauffer un peu d'eau dans une casserole. Je mettrai un couvercle, l'eau va bouillir ou je mettrai dedans quelque chose avant que l'eau se soit évaporée ou mettre vos paroles, vos pensées bouillantes depuis deux jours et votre colère. Je mettrai quelque chose de pareil, aussi fort, aussi chaud. Elle disait en se touchant la poitrine, mon cœur, oh mon cœur, le sang vient de là, le sang arrive là, pied géant sur la terre, un seul pied peut couvrir une maison. Elle disait qu'elle était reine dans son pays quand elle allait rendre la justice sur le toit de son palais. Tout le peuple grimpait s'asseoir avec elle.
Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.